Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et je vous invite à prendre vos Bibles dans le Cantique des Cantiques, au premier chapitre. Nous allons lire du chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 2, verset 7. Cantique des Cantiques, tout le premier chapitre, et puis les 7 premiers versets du deuxième chapitre. Le Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ta tendresse vaut mieux que le vin. La senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi. Nous courons à ta suite. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Nous serons dans l'allégresse et la joie grâce à toi. Nous célébrerons ta tendresse plus que le vin. C'est à bon droit que l'on t'aime. Je suis bronzée, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne faites pas attention si je suis bronzée. C'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Révèle-moi, toi que mon cœur aime. Où tu fais paître ton troupeau? Où tu le fais reposer à midi? Car pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces du menu bétail et fais paraître tes chevreaux, et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À la jument attelée au char du pharaon, je te compare, ô ma compagne. Tes joues sont charmantes au milieu des bijoux. Ton cou est beau au milieu des colliers. Nous te ferons des bijoux d'or avec des pointes d'argent. Tandis que le roi était avec son entourage, le nard sur moi exhalait son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène dans les vignes de En-Gedi. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Je suis le narcisse du Saron, le lys des vallées. Comme un lys au milieu des ajoncs, telle est ma compagne parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir et son fruit est doux à mon palais. Il m'a introduite dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite.
Sans flamme, le feu s'éteint. Sans l'Esprit, nos cœurs restent froids. Et nous comptons sur la flamme du Saint-Esprit pour embraser nos cœurs afin d'aimer et d'être aimé par Dieu d'une manière puissante ce matin. C'est ma prière pour chacun de nous. De quoi parlent les adultes en devenir, les jeunes et les ados, régulièrement ensemble? Très souvent, des relations amoureuses et de tout ce qui tourne autour. Parce que c'est un sentiment très puissant, très attirant, mais aussi terriblement blessant lorsqu'il est mal vécu et complètement déformé
par notre société anti-biblique.
Beaucoup de personnes sont complètement déboussolées et n'ont aucun repère, et on leur enseigne d'essayer ce qu'ils ont envie. Mais les désirs ne sont pas neutres et sont complètement influencés par les trois ennemis de la sainteté selon Dieu. En fait, la chair a des désirs contraires à ce que Dieu veut pour nous. Et Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Le monde, décrit dans 1 Jean 2, 15 à 17, va susciter des désirs contraires à Dieu. Et Satan, notre ennemi, va amplifier et faire une publicité mensongère pour susciter des désirs contraires à ce que Dieu veut. Il déteste Dieu et ses œuvres. Tous, en fait, ici, nous sommes influencés aussi et peut-être surtout dans le domaine de la relation la plus intime qui existe dans l'expérience humaine, qu'est la sexualité. Nous sommes influencés par la chair qui nous suit partout, par le monde qui nous cherche partout et par Satan qui rôde comme un lion cherchant une proie à dévorer. Donc nous sommes influencés par la chair qui nous suit partout, par le monde qui nous cherche partout et par Satan qui rôde comme un lion cherchant une proie à dévorer. C'est pourquoi l'étude du Cantique des Cantiques revêt en fait une si grande importance. Nous avons déjà vu ensemble une introduction à ce livre et je ne vais pas répéter toute la prédication ici, vous pouvez la réécouter, mais j'aimerais résumer quelques éléments pour qu'on soit bien dans le contexte. Premièrement, nous parlons ici d'un chant. Ce n'est donc pas un récit, une prophétie ou une épître. Ce qui est écrit parle plutôt d'impressions, exprime des sentiments, tout en se basant sur des vérités. Deuxièmement, ce chant est dans la Bible, la parole révélée de Dieu pour se faire connaître aux hommes et qui est cohérente avec tous les enseignements qui y sont contenus, également concernant le cadre de la sexualité. Ensuite, ce chant est chanté à deux voix accompagnées de temps à autre d'un chœur. La voix principale est la bien-aimée, aussi appelée la plus belle des femmes, ma compagne, ma sœur, ma colombe, ma parfaite, la Sulamite, mon amour, mes délices. Et en fait, ce sont tous les textes que l'hébreu nous permet d'identifier comme venant d'une voix féminine. Alors si jamais sur les documents que je vous ai donnés au dos, vous avez exactement chaque fois quand la personne qui parle est féminine ou masculine, ce qu'on n'a pas forcément dans la Bible à la colombe. Et ça nous aide à savoir qui parle. La seconde voix principale, qui est le bien-aimé, est aussi appelée Salomon, ou celui que mon cœur aime, mon bien-aimé, mon compagnon. Et là, de nouveau, ce sont les textes que l'hébreu, dans le texte, que l'hébreu nous permet d'identifier comme venant d'une voix masculine. Et il y a un cœur. Un cœur, c'est tous les textes hébreux qui nous permettent d'identifier des voix plurielles qui sont présentes. Donc ce sont les trois rôles du cantique, des cantiques qui nous guideront. Trois voix qui chantent, si vous voulez. La voix féminine, la bien-aimée, la Sulamite, une féminisation de Salomon qui veut dire paix pacifique. La voix masculine, le bien-aimé, Salomon, symbole de l'être de paix dans la lignée du berger ultime promis. Et un cœur qui n'est pas toujours défini. Parfois c'est un groupe appelé Filles de Jérusalem. Alors là, je patine sur le mot là. Fille de Jérusalem, pardon, mais ce n'est pas toujours précisé. Et ce chant nous permettra de vivre des étapes que nous allons explorer à différents moments. Nous chercherons à entrer dans ce chant de ces amoureux pour saisir ce qui se passe, qu'est-ce qui est vécu, qu'est-ce qu'il veut dire, en saisissant les impressions et en cherchant à saisir ce qui est dit figurativement. Rappelons-nous que nous sommes dans un chant. Ayant saisi un peu mieux de quoi il s'agit, deuxièmement, nous allons réfléchir à ce que cela signifie dans la vie de couple et qu'est-ce que nous pouvons retirer comme application. Et troisièmement, comme indiqué dans la prédication d'introduction, le mariage a un modèle divin qui est Christ et son Église. Et nous sommes tous ceux qui appartiennent à ce roi sauveur, partie prenante de cette Église. Et nous réfléchirons à ce que cela signifie aussi dans notre vie spirituelle. Vous vous rappelez peut-être
que j'avais apporté une structure simple, j'avais parlé de deux structures, mais une structure simple du Cantique des Cantiques, qui était en trois parties et qui va nous aider à voir un petit peu où nous allons dans notre périple. Les trois parties, eh bien, ce sont la première partie, les fiançailles en vue du mariage, ou on pourrait dire l'amour pur avant le mariage. Ensuite, on a la partie le jour du mariage, ou l'amour le jour du mariage. Et ensuite, la vie commune dans le mariage, ou l'amour dans le mariage. Et pour chaque partie, eh bien, nous aurons deux prédications. Et aujourd'hui, nous commencerons avec la première section, qui donc fait partie des fiançailles avant le mariage. Et le titre de cette prédication est « L'éveil de l'amour ». Et voici les différents éléments que nous allons voir ensemble ce matin. Premièrement, j'ai intitulé la première partie « Quand l'amour nous tient ». Alors, que se passe-t-il au début de ce cantique? Qui rencontrons-nous et dans quel état et pourquoi? Ensuite, nous verrons le premier échange. Quelle est la situation de la bien-aimée? Comment le bien-aimé la rassure, etc. Et puis troisièmement, nous verrons l'admiration réciproque qui nous révèle plusieurs facettes des qualités des amoureux. Voilà un petit peu le programme de ce matin. Donc la première partie, quand l'amour nous tient. En fait, en entrant dans ce cantique, nous n'avons aucun indice de contexte. En fait, nous entendons simplement la voix d'une femme qui commence à chanter et qui exprime en fait que son amour est éveillé. Elle soupire après son amoureux. L'amour avait déjà été manifesté parce qu'elle peut dire que sa tendresse ou son amour qu'elle reçoit vaut mieux que le vin. S'il n'y avait rien avant, elle ne pourrait rien dire. Donc c'est une histoire, on entre dans l'histoire qui a déjà commencé. Et si je paraphrase un petit peu, ici c'est versets 2 à 4, voici ce que nous pourrions dire, elle chante ceci, « Je suis amoureuse, j'aime les marques d'affection que tu me donnes, tu es sérieux, fiable et aimé, je suis prête à te suivre. » Voilà en quelque sorte ce qu'elle dit ici, cette bien-aimée. Et le cœur lui répond, « Te voir amoureuse et heureuse nous fait célébrer l'amour, tu es aimée. » Voilà un petit peu la notion de ce qui s'y passe. Et nous allons nous plonger maintenant dans ces différentes parties du texte. Donc maintenant qu'on a le sens général, donc relisons le verset 2 où il est dit « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ta tendresse vaut mieux que le vin. La bien-aimée est amoureuse. » C'est clair, non? C'est clair dans ce texte. Elle est amoureuse et elle répond à un amour reçu. Elle répond à un amour reçu. Elle est envahie de désir d'être avec son bien-aimé. Elle est convaincue du bienfait de l'amour qui vaut mieux que tout ce qui pourrait faire plaisir et amener à la réjouissance comme le vin. Donc nous avons ici une bien-aimée amoureuse qui répond à un amour reçu. Elle est envahie d'un désir d'être avec son bien-aimé. Elle est convaincue du bienfait de l'amour qui vaut mieux que tout ce qui pourrait faire plaisir ou amener à la réjouissance comme le vin. D'ailleurs, le psaume 104, verset 15, nous parle de ce que signifie le vin ici. Hein. Il est dit dans le psaume 104, « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. » L'amour reçu vaut mieux que tout. Elle continue, verset 3, la senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. En fait, l'amoureuse n'est pas simplement attirée par le charme sensuel de cet homme. Elle ne se laisse pas tromper par un mauvais garçon qui veut juste s'amuser avec elle. En fait, le parfum et le nom ici évoquent une bonne réputation, une conduite droite reconnue par tous. Les autres jeunes filles aussi ont confiance. Aucune n'a eu de mauvaises expériences avec lui. Son nom indique qu'il est fiable, sérieux, digne de confiance. En disant « les jeunes filles t'aiment », la bien-aimée indique qu'elle a parlé de lui, en fait, autour d'elle. Elle n'est pas restée enfermée dans une relation en duo sans aucun conseil extérieur. Si elle peut dire cela, c'est qu'elle en a parlé. Elle continue, verset 4. « Entraîne-moi, nous courons à ta suite. Le roi m'a introduite dans ses appartements. » La fin de ce verset 4 serait peut-être plus adéquat en parlant du futur. Hein. Fais-moi entrer dans tes appartements. La jeune fille ici souligne qu'elle est prête à suivre ce roi. Rien ne la retient. Elle se réjouit que son roi prenne soin d'elle et l'accueille chez lui. Et c'est à ce moment-là que le chœur entre en scène, dans le chant. Donc là, c'est la femme qui chantait, cette bien-aimée. Et là, le chœur arrive, donc c'est un pluriel qui est ici. Nous serons dans l'allégresse et la joie grâce à toi. Nous célébrerons ta tendresse plus que le vin. C'est à bon droit que l'on t'aime. Vous savez, la relation d'amour de la jeune fille n'est pas quelque chose de privé, en fait. Tous ceux qui sont autour d'elle se réjouissent et l'encouragent dans son choix. Ils la rassurent également en lui disant que cet amour est bon. Alors, si nous réfléchissons un peu à qu'est-ce que ça peut signifier, qu'est-ce que ça peut nous apporter, quand on parle de couple, que vous soyez en couple ou en fréquentation ou célibataire, ces considérations sont utiles et importantes. Je ne vais pas épuiser tout ce qu'on pourrait dire ici, mais j'aimerais déjà souligner que dans un premier temps, nous voyons que la bien-aimée croit au bien de l'amour et de la tendresse. C'est un premier sujet important et les couples mariés, même depuis de nombreuses années, devraient se poser la question, croyons-nous encore que l'amour, la tendresse, vaut mieux que le vin ? Vivons-nous un amour qui réellement fait envie et suscite le désir de vivre toujours plus intensément? Ou avons-nous besoin de retourner vers la source de l'amour, Dieu lui-même, qui ranime cette flamme? Pour les célibataires, est-ce que vous comprenez l'importance de l'amour dans les couples? Et est-ce que vous les encouragez à cela? Est-ce que vous persévérez, est-ce que vous vous préservez vous-même aussi pour le vivre une fois? Avez-vous aussi des relations saines et des amitiés profondes qui vous y préparent et qui vous permettent déjà de vous réjouir d'amitiés qui valent aussi mieux que le vin? La bien-aimée, deuxièmement, est saisie par le parfum du nom de son bien-aimé qui a une bonne réputation. Son bien-aimé qui a une bonne réputation. Pour tous ceux qui veulent se marier, cherchez une personne de bonne réputation reconnue. Cherchez une personne de bonne réputation reconnue. En fait, la mauvaise réputation, si elle est vérifiée, devrait faire fuir tout prétendant ou prétendante qui veut vivre selon Dieu. La mauvaise réputation vérifiée devrait faire fuir tout prétendant ou prétendante qui veut vivre selon Dieu. Cela signifie aussi que chacun doit veiller à vivre de manière intègre, ne pas jouer avec les sentiments des autres. Connaissez-vous votre propre réputation? Je ne parle pas de celle que vous imaginez. Je parle de celle dont les autres parlent et qu'un vrai ami est capable de vous dire, quelle que soit la réalité. Et si quelqu'un se rend compte qu'il s'est égaré, qu'il vienne à Christ, qu'il se repente de ses actions trompeuses et égoïstes pour reconstruire un nom parfumé de quelqu'un à qui l'on peut faire confiance et qui se conduit d'une manière digne, bienveillante et pure. Vous savez, il existe une personne totalement digne de confiance, qui nous manifeste son amour d'une manière démonstrative, ayant même donné sa vie pour nous. Cette passion de la bien-aimée et cette valeur donnée à l'amour reçu pointent en fait vers notre réponse aussi à l'amour de Christ. S'il n'y a pas de sensualité avec Christ, la dimension intime n'est pas amoindrie. Croyons-nous à l'amour proche, pur et intime avec Christ? Croyons-nous que cet amour intime avec Christ vaut mieux que le vin? L'amour veut être avec l'être aimé. L'amour, ce n'est pas simplement le sentiment d'être aimé. car cela peut être un sentiment très égoïste qui utilise l'autre pour se satisfaire. Non, l'amour, c'est vouloir la présence de l'autre et être prêt à se donner. Seigneur, entraîne-moi dans ta présence. La réputation de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur est parfaite. Son parfum n'a aucun défaut. Et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu l'aiment. Et même, on peut dire ici, l'adorent. Et vous savez, tous les enfants de Dieu qui voient cet amour pour le bien-aimé Jésus-Christ sont dans l'allégresse et la joie. Grâce à vous qui aimez ce bien-aimé. Il célèbre votre amour et celui du bien-aimé plus que le vin. Cette relation, tout en étant intime, n'est pas cachée. Elle est connue publiquement et approuvée. Donc là, en lien avec cette partie du cœur, la deuxième partie du verset 4, « Tous les enfants de Dieu qui voient votre amour pour le bien-aimé Jésus-Christ sont dans l'allégresse et la joie grâce à vous. Ils célèbrent votre amour et celui du bien-aimé plus que le vin. » Cette relation, tout en étant intime, n'est pas cachée. Elle est connue publiquement, approuvée et apporte de la joie et de la réjouissance. Ce cantique, on pourrait dire, commence fort. Il nous fait comprendre que l'amour est réveillé, qu'il y a de la passion et que cette passion conduit au désir de la communion de l'être aimé. Continuons donc les versets 5 à 11 que j'intitule « Le premier échange ». La bien-aimée se présente et elle cherche le contact avec le bien-aimé qui va lui répondre. Alors je vais de nouveau paraphraser ce texte chanté avant d'y plonger pour qu'on ait un peu une idée du sens. Voici ce qu'elle chante. « Le travail a marqué ma vie qui n'a pas été facile. Je n'ai pas pu prendre soin de moi, mais je cherche un refuge en toi que mon cœur aime. » Elle lui chante en retour « Tu me trouveras vers les bergers qui sont à mon service. Tu es la plus belle des femmes qui fait chavirer le cœur des hommes. » Et le cœur qui arrive à nouveau, comme tout à l'heure, « Nous t'aiderons à mettre ta beauté en valeur. » Celle qui est amoureuse se présente, et voyons-le de le verset 5 et 6 que je vais relire. « Je suis bronzée, mais je suis charmante, fille de Jérusalem. » Comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne faites pas attention si je suis bronzé, car le soleil qui m'a bruni, c'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. À l'époque, il semble que le critère de beauté pour une femme était d'avoir le teint clair, ce qui indiquait que la femme avait pu prendre soin d'elle. À l'abri du soleil. Et généralement, elle était aussi bien en chair, ce qui indiquait une bonne capacité à donner la vie. La bien-aimée du cantique, ici, est consciente qu'elle n'a pas les critères de beauté de l'époque. Elle est consciente. Mais elle est aussi consciente de son charme. Et elle désire qu'on l'aime comme elle est. Elle est consciente qu'elle n'a pas les critères de beauté de l'époque, mais elle est consciente de son charme et elle désire qu'on l'aime comme elle est. Elle explique que sa peau brunie est due au travail qu'elle a été forcée de faire par les fils de sa mère, qu'elle d'ailleurs n'appelle pas ses frères. Elle a vécu des moments difficiles, n'ayant pas l'occasion de prendre soin d'elle-même, tout en devant prendre soin des autres. Mais elle ne s'apitoie pas sur elle. C'est très intéressant ici. Elle ne s'apitoie pas sur elle. Elle tourne son regard vers celui que son cœur aime. Regardons la suite, verset 7. « Révèle-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons ?» Elle demande où elle peut le trouver. Elle ne veut pas devoir aller vers tous ses amis qui pourraient croire qu'elle veut les séduire. Non, elle ne fait pas de détour, elle le responsabilise en lui demandant cela. « Dis-moi où je peux te trouver. » Et il va répondre avec tact et amour. Regardez au verset 8. « Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces du menu bétail et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. » À la jument attelée au char du pharaon, je te compare ou m'accompagne. Tes joues sont charmantes au milieu des bijoux. Ton cou est beau au milieu des colliers. Je m'arrête là, parce qu'après, c'est plus lui. Il lui donne rendez-vous, en fait. Il lui dit, mais voilà où tu peux me trouver. Il la rassure. Et il lui dit qu'elle est la plus belle des femmes pour lui. Et pour lui prouver cela, il la prouve à une jument attelée au char du pharaon.
Je suis sûr qu'ici, toutes les femmes seraient tellement flattées.
Quel compliment! Tu es comme belle comme une jument.
Bon, c'est pas, peut-être pas un compliment aujourd'hui, mais à l'époque, en Orient, il y avait une grande admiration pour les chevaux.
Et il se pourrait même qu'ils disent qu'elle rend tous les hommes fous comme une jument qui serait attelée au char du pharaon tiré par des étalons.
Elle voulait dire « je ne suis rien » et il est en train de lui dire « ah non, non, c'est pas vrai, tu n'es pas rien ».
Tu fais tourner la tête de tous les hommes, enfin, en tout cas la mienne. La description de ses joues et du cou, d'ailleurs ici, nous indique que le bien-aimé décrit ce qu'il voit, qu'il n'est pas encore marié, parce que la description sera plus explicite par la suite. Ici, il est pudique tout en étant élogieux. On voit ici qu'il décrit ce qu'il voit, alors qu'ils ne sont pas encore mariés. La description sera plus explicite par la suite. Ici, il est pudique tout en étant élogieux. Et le cœur indique ici qu'il aidera la bien-aimée à briller devant son amoureux. Hein, il est dit, regardez juste, au verset 11, « Nous te ferons des bijoux d'or avec des points d'argent. » Alors si nous réfléchissons à qu'est-ce qu'on peut réfléchir de cette partie ici, eh bien comme la bien-aimée est consciente de sa situation et ne cache rien de ce qu'elle est et de ce qu'elle a vécu, dans le cadre de l'amour, il est important d'être vrai, de ne pas jouer un jeu ou essayer de se montrer sur un meilleur jour, sous un meilleur jour que ce que nous sommes. Comme la bien-aimée, consciente de sa situation, ne cache rien de ce qu'elle est et de ce qu'elle a vécu. Dans le cadre de l'amour, il est important d'être vrai, de ne pas jouer un jeu, d'essayer de se montrer sous un jour meilleur que nous sommes. Et c'est vrai pour toute relation d'amitié. Et donc, bien sûr, également dans le cadre des fréquentations et du mariage. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Et quelle belle réponse du bien-aimé qui prend ses responsabilités et lui donne un lieu de rendez-vous. Il ne veut pas qu'elle soit embarrassée en devant chercher auprès des uns et des autres. De plus, il la rassure. Il lui dit mais tu es la plus belle des femmes pour moi. Il cherche même une référence d'époque qui est une preuve, hein, les chevaux de Pharaon, comme je l'ai dit, qui étaient réputés. D'ailleurs, en passant, Salomon allait chercher les chevaux en Égypte, ce n'était pas pour rien. Et le cœur ici soutient la bien-aimée. Comme nous sommes tous encouragés à soutenir les bien-aimés dans le couple, afin que chacun aime son conjoint. Le cœur encourage ici, il veut embellir, non pas pour cacher, mais pour que les conjoints s'aiment. Ce n'est pas seulement une affaire privée. La solidité des couples a un impact dans la famille, dans l'Église et dans la société. Voilà pourquoi il est important de soutenir les bien-aimés afin qu'ils s'aiment. Évidemment, lorsqu'on réfléchit aussi à tout ce cheminement spirituel face à notre bien-aimé Jésus-Christ, nous pouvons être vrais. Nous pouvons parler du soleil qui a brûlé notre peau, des fils de notre mère qui se sont emportés contre nous, de l'injustice que nous avons vécue. Notre bien-aimé ne va pas nous repousser ou nous rejeter. Et lorsque nous lui demandons un rendez-vous pour le rencontrer, Jésus va ouvrir grand ses bras et nous dire « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le Père même nous dit « Tu es mon enfant bien-aimé, je t'aime non pour ce que tu as fait ou ce que tu as cherché à devenir, mais pour ce que tu es. » Le reste des croyants, le cœur va chercher à soutenir cet amour, à l'embellir, à l'encourager, à s'en réjouir. Et dans la dernière partie du texte des Cantiques de ce jour, nous assistons, on pourrait dire, à un match de tennis d'admiration réciproque. Donc on va un petit peu voir ça ensemble ici. Hein. C'est comme un match de tennis d'admiration réciproque. Alors je vais de nouveau le paraphraser pour qu'on le comprenne un peu et nous y entrerons.
Elle chante « Mon bien-aimé est sur mon cœur, à tout instant je pense à lui ». Lui chante « Mais j'admire ta beauté ». Et elle répond « J'admire ta beauté, ta bonté, ta pourvoyance, je suis paisible et peux m'épanouir ». Il lui répond « Tu es éclatante de beauté et épanouie parmi les autres filles ». Et elle répond « Tu portes du fruit, tu es protecteur ». C'est lui qui a commencé et m'a conquise par amour. Je suis amoureuse, je désire la proximité physique. Attention, ceux qui ne sont pas encore en route vers le mariage, ne jouez pas avec le puissant sentiment amoureux. Donc reprenons ces différentes parties. Versets 12 à 14, relisons-les. Tandis que le roi était avec son entourage, le nard sur moi exhalait son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène dans les vignes d'En-Gedi. Son roi peut être entouré de sa cour. La bien-aimée ne voit que lui. Elle ne pense qu'à lui. Ça me fait juste penser à une situation où quelqu'un m'a dit un jour, quand je l'ai vu, je n'ai vu plus personne d'autre. C'est exactement ça. Elle pense à lui et comme la myrrhe exhale son parfum lorsqu'il est au contact d'une source de chaleur, son cœur réchauffe les pensées qu'elle a pour lui. Tout ce qui est dit décrit le sentiment, des sentiments agréables, désirables, comme l'oasis d'En-Gedi qui abondait d'eau rafraîchissante. Et voilà qu'il répond. Verset 15, « Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. » Il est ébloui, les mots lui manquent. Il fait mention de la colombe, symbole de pureté, de douceur et de paix. Elle s'empresse de répondre en faisant revivre le jardin d'Éden. Ici, vous verrez, elle parle d'un lit naturel dans une maison de verdure. Verset 16, où il est dit, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons, ou les poutres, hein, sont des cèdres. Nos lambris, ou les murs, si tu voulais, sont des cyprès. Je suis le narcisse du Saron, le lys des vallées. Elle se compare à une fleur, comme dans la vallée. Et il s'empresse de répondre, mais comme le lys au milieu des ajoncs, telle est ma compagne parmi les jeunes filles.
C'est quoi un ajonc? Moi, je ne savais pas. J'ai dû aller voir.
C'est un buisson épineux. En fait, il est en train de lui dire, non, mais tu n'es pas une fleur comme les autres. En fait, tu es une fleur qui ressort de toutes les autres qui sont, quelque part, comme des épines à côté de toi, pour moi. Elle n'est pas commune pour lui. Elle est particulière. Elle sort du lot. Elle est sa fleur au milieu des épines.
Le terme « compagne »,« ma compagne » ici, est parfois traduit sur « mon ami » et nous devrions plutôt le rendre dans notre langage « ma chérie ». En fait, le bien-aimé utilise un langage bienveillant, aimant.
Mais elle ne s'arrête plus. Elle lui répond, elle n'arrive plus à s'arrêter. Elle décrit son bien-aimé, regardez, verset 3. « C'est comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. » À son ombre, j'ai désiré m'asseoir et son fruit est doux à mon palais. Il m'a introduit dans la maison de son vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Elle voit en lui un homme qui pourvoit, qui porte du fruit, capable de lui donner de l'ombre. La bannière ici, c'est vrai, fait allusion un peu à la guerre. Il l'a conquise, en fait, par l'amour. L'amour, la bannière qu'il déploie, en fait, sur elle. Elle est éprise d'amour pour lui et désire qu'il l'embrasse. Et là, alors que nous comprenons que le désir amoureux est très puissant, j'espère que vous vous rendez compte, c'est très puissant ici ce qui est en train de se passer, eh bien, elle presse sur le bouton « pause ».
Puis voilà ce qu'elle dit. « Je vous en conjure, fille de Jérusalem. »
Par les gazelles, par les biches de la campagne. N'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le souhaite. C'est comme si elle se rendait compte tout à coup que des personnes autour d'elle pourraient avoir envie de vivre cette passion amoureuse qu'elle exprime. C'est comme ces rencontres,
se rend compte que des gens pourraient avoir envie de vivre cela, et elle avertit qu'il est important de ne pas réveiller l'amour avant qu'elle le souhaite. Ne pas réveiller l'amour avant qu'elle ne le souhaite. Ce qui signifie qu'il ne faut pas entretenir des sentiments amoureux, il ne faut pas mettre un combustible ou ouvrir la vanne avant d'être dans une relation qui conduit au mariage. Cela signifie qu'il ne faut pas entretenir les sentiments amoureux, il ne faut pas mettre de combustible ou commencer à ouvrir la vanne avant d'être dans une relation qui conduit au mariage. C'est puissant. On le voit ici. Et on arrivait à un point qui était tellement fort qu'elle a mis la pause là. Attention. Et nous verrons la prochaine fois, avec la suite du texte, l'invitation à l'amour. Restons pour l'instant sur cet avertissement solennel de ne pas réveiller l'amour. Le thème est très fort. Elle dit « je vous en conjure » ou encore « je vous en supplie ». Si je commence par ce dernier aspect pour une application, ne jouons pas avec les sentiments amoureux. Ne jouons même pas avec le jeu des petits copains, petites copines avec les enfants. Je suis parfois sidéré de voir comment les adultes s'amusent des amourettes et des enfants, mais qui par ce jeu inculquent que les relations sont éphémères et enlèvent toute idée de se préserver pour son futur conjoint. C'est pas le moment. Non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et nous pouvons très rapidement entrer dans ce jeu. Je l'ai malheureusement aussi fait parfois dans le passé, je m'en repens. Ne commencez pas une relation amoureuse si le mariage n'est pas prévu dans un délai raisonnable. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et n'ayez pas peur qu'une personne vous échappe parce que vous ne commencez pas à sortir avec cette personne à 14 ou 16 ans. À qui faites-vous confiance pour votre vie de couple ? Dieu est-il si impuissant ? Pour l'échange d'admiration que nous voyons entre les bien-aimés, que cela nous stimule à avoir une attitude encourageante, des mots valorisants et d'appréciation dans le couple. Messieurs, oh les dames, maintenant vous êtes tranquilles, mais je viendrai vers vous tout à l'heure. Messieurs, quand avez-vous dit pour la dernière fois à votre épouse qu'elle était belle, de manière à ce qu'elle en soit convaincue, que vous l'aimiez, qu'elle était précieuse pour vous? Les femmes ont particulièrement besoin d'entendre qu'elles sont aimées pour être rassurées, qu'elles sont belles aux yeux de leur mari, qu'elles sont l'exclusivité du regard de leur mari. Mesdames, j'ai dit que j'arriverai vers vous aussi, quand avez-vous exprimé votre appréciation pour votre mari la dernière fois? Quand lui avez-vous dit pour la dernière fois que vous lui faisiez confiance et que penser à lui était comme un parfum de bonne odeur? Bon, vous lui direz peut-être d'une manière moins olfactive, évidemment, mais à votre manière. Et là pour tous, quand avez-vous pris le temps pour écrire un mot d'amour à votre conjoint? Or, les célibataires, ne dites pas que ça ne vous concerne pas tout ça. Parce que vous pouvez déjà dire des mots encourageants et appréciatifs à ceux qui sont autour de vous et à vos amis. Ça s'apprend. Êtes-vous conscient de la puissance des paroles? L'intimité dans une relation est très fortement liée aux paroles prononcées. L'intimité dans une relation est très fortement liée aux paroles prononcées. Et là, on peut déjà parler aux parents. Est-ce que les parents disent des paroles appréciatives et encourageantes à leurs enfants? Est-ce que les enfants le font vis-à-vis de leurs parents? Les frères et sœurs vis-à-vis de leurs frères et sœurs, à la maison, dans l'église, envers les amis, etc. Et par rapport à notre relation avec Christ, est-ce que nous aimons uniquement Christ pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il nous donne? Est-ce qu'on l'aime seulement parce qu'il nous donne quelque chose? Parce que si nous l'aimons uniquement parce que pour ce qu'il nous donne, c'est un amour païen. parce que nous sommes appelés à aimer Dieu et Jésus-Christ pour qui il est. Nous aimons Jésus pour sa personne. Nous voulons le louer pour qui il est. Parce que si nous aimons Dieu pour ce qu'il nous donne, si nous ne recevons pas ce que nous désirons, qu'arrivera-t-il de notre amour pour lui ? Apprenons à aimer Dieu et Jésus-Christ par amour et non par intérêt. Prenons le temps pour simplement méditer qui il est et se réjouir en lui, comme les amoureux qui s'aiment et se réjouissent simplement d'être ensemble. Aimer Dieu simplement pour qui il est. Et vous savez quoi ? C'est comme ça que Dieu nous aime. Il n'attend pas, il n'a pas attendu qu'on fasse quelque chose à son égard pour nous aimer, non. Il est même dit de Romains 5, « Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Non seulement nous n'avons rien fait pour lui, mais nous étions révoltés contre lui et il nous a aimés. Dieu, lui, ne nous fera jamais quelque chose de mal ou d'injuste. Aimons-le pour qui il est, avant même qu'il fasse quelque chose pour nous. Et tout ce qu'il fera pour nous peut nous encourager à l'aimer plus encore. Pensons à lui comme la bien-aimée dont le bouquet de myrrhe sur son cœur entre les seins rappelait le parfum de son bien-aimé. Disons-lui tout le bien que nous pensons de lui et entrons dans une relation d'amour qui n'est pas dépendante de son action envers nous, mais de notre attachement envers sa personne. En conclusion, nous sommes aujourd'hui entrés dans ce cantique des cantiques. Nous avons pu constater qu'il est riche pour nous stimuler dans nos relations de couple et même dans toutes nos relations humaines. Nous avons pu constater qu'il pointe également sur l'amour que nous pouvons porter à Dieu et que Dieu porte pour nous. Écoutez bien ceci. Tous ceux qui sont en Christ sont les bien-aimés de Dieu. Tous ceux qui sont en Christ sont les bien-aimés de Dieu. Si tu es en Christ, il te voit beau, il te voit belle. Tu es précieux à ses yeux. Il désire passer du temps avec toi. Il t'a conquis à la croix et déploie sa bannière d'amour sur toi. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas juste de la pitié, hein, comme s'il dirait, bon, bah, comme personne ne t'aime, moi je vais le faire. Non, il fait de toi sa plus grande joie. Il l'avait annoncé d'ailleurs dans Sophonie, je vous lis le texte, Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Pour ceux qui sont en Christ, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Il a une joie triomphante d'être en relation avec ses bien-aimés. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme roi et sauveur, recevant cet amour extraordinaire qui n'est pas en lien avec ce que l'on a fait, n'hésite pas à venir vers lui. N'hésite pas à demander à un membre de l'Église, un ancien, à venir vers moi après le culte pour parler ensemble de cet amour, pour qu'on puisse t'expliquer comment entrer dans cette relation d'amour qui te submergera, te donnera la joie de saisir ce qu'est la tendresse qui vaut mieux que le vin. Et ma prière, c'est que tous ici, vous puissiez saisir cet amour de Dieu qui vaut mieux que tous les plaisirs du monde. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce cantique des cantiques commence de manière passionnée. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que pour tous ceux qui sont en Christ, nous soyons passionnés de toi. Mais j'aime aussi te prier que tous ceux qui sont mariés ici soient passionnés de leur conjoint. Tu connais les saisons de nos vies. Tu connais les moments plus joyeux, les moments qui sont exaltants.
Tu connais les temps qui sont plus plats ou carrément plus difficiles. Seigneur, pour tous ces temps, c'est auprès de toi et dans ton amour que nous voulons puiser pour vivre nos relations conjugales d'une manière qui t'honore. Nous avons besoin de toi. Et nous te remercions pour les belles choses que nous avons pu vivre et te prions, Seigneur, de nous relever, de nous pardonner, de nous guider, de nous restaurer pour ce qui a besoin de l'être. J'aimerais te prier que ceux qui fréquentent puissent vivre, Seigneur, non pas un amour égoïste pour soi-même, mais qui se tourne vers l'autre, qui se donne comme tu l'as fait pour nous. J'aimerais te prier pour tous les célibataires et tous les enfants, que tous ceux qui sont autour de couples puissent comprendre que c'est important d'encourager chaque couple de vivre l'amour et de ne pas chercher à casser ces relations, mais plutôt à les protéger, à les encourager, à se réjouir lorsque nous voyons des éléments d'encouragement, à se soutenir dans les moments plus difficiles. J'aimerais te prier particulièrement pour les plus jeunes aussi de se préparer, à ne pas penser que c'est quelque chose qu'ils apprendront au moment où ils tomberont amoureux. Non, Seigneur, c'est bien avant. C'est depuis petit qu'on apprend à valoriser l'autre, à prendre soin, à se donner, à mettre les intérêts de l'autre avant les siens et à se réjouir de l'amour que toi tu donnes pour que nous puissions le donner aux autres et nous réjouir de la réciprocité. Seigneur, nous venons simplement vers toi maintenant en cette fin de prédication, en t'adorant pour ton amour pour nous et en t'implorant de nous remplir de cet amour les uns pour les autres, dans toutes les relations dans lesquelles tu nous places. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.